On termine avec ce chant ébloui, ébloui par le Seigneur, ébloui par sa présence, par son royaume. Et puis c'est ce qu'on va essayer de découvrir ou se rappeler ce matin, comment annoncer le royaume. Et on a commencé une série sur les paraboles du royaume. Il y a 2 semaines, Johan nous a parlé de la parabole du semeur. Magnifique, vous suivez? Joli, joli. Dans cette parabole, Johan nous a encouragé à rappeler que voilà, le Seigneur sème son royaume, il annonce, même si pas tous les terrains sont toujours prêts, mais le Seigneur sème, il annonce son royaume. Et comment le fait-il? Dans cette série, on voit que par plusieurs paraboles, il pointe une facette du royaume. Jésus annonce le royaume en parabole. Et entre la parabole, l'histoire qu'il raconte en elle-même et son explication, les disciples viennent vers lui et lui disent « En fait, pourquoi tu choisis cette manière? Pourquoi tu leur parles en parabole ?» Et c'est ce bout de texte qui va nous conduire ce matin dans notre liste que ça peut. Comment annoncer le royaume? Pourquoi Jésus utilise les paraboles et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour nous aujourd'hui? Alors, je vous invite à la lecture, Matthieu 13, 7 petits versets. Les disciples s'approchent de Jésus et lui demandent « Pourquoi est-ce que tu leur parles avec des paraboles ?» Jésus leur répond « Dieu vous donne à vous de connaître les vérités cachées du royaume des cieux, mais il ne donne pas cela aux autres. En effet, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus et il aura beaucoup plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. » Donc je leur parle avec des paraboles, parce qu'ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils n'écoutent pas et ne comprennent pas. Ainsi, il leur arrive ce que le prophète Ésaïe a annoncé. Dieu dit, vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne le verrez pas. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles. Ils ont fermé les yeux. Ils ne voulaient pas voir avec leurs yeux, entendre avec leurs oreilles, comprendre avec leur cœur. Ils ne voulaient pas changer leur vie. Alors je n'ai pas pu les guérir. Mais vous, vous êtes heureux. Vos yeux voient et vos oreilles entendent. Je vous le dis, c'est la vérité. Beaucoup de prophètes, beaucoup de gens fidèles à Dieu ont désiré voir ce que vous voyez, mais ils ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu.
Je lance
la recherche, pourquoi Jésus parle en parabole? Est-ce que Apple Music peut nous répondre? Ça m'aurait aidé, parce que la réponse de Jésus me laisse très très insatisfait. Ceux qui ont, on leur donnera plus, et ceux qui n'ont pas, je leur enlèverai. Pourquoi il parle en parabole de cette manière indirecte? Pour cacher la vérité? Pour rejoindre que ceux qui sont capables de comprendre? Jésus veut que les plus malins dans son royaume? J'espère pas qu'Apple Music aurait répondu ça, mais je ne crois pas. Jésus cherche, en fait, à transmettre une réalité fondamentalement géniale, hein, le royaume, quelque chose qui nous transforme, qui est tellement profond. Mais il sait que ce n'est pas recevable par tout le monde. Il sait que pas tous les cœurs, pas tous les terrains sont prêts à accueillir une nouvelle si grande. Alors comment expliquer une réalité fondamentalement géniale, mais on ne sait pas vraiment si les gens sont prêts à recevoir la nouvelle ou pas? Ça m'a fait penser, le défi est moins grand, mais à mon défi de l'été. On était 3 semaines au Brésil avec Hélé dans sa famille. Et puis, plusieurs discussion où les cultures sont tellement différentes que j'étais à des années-lumière de ce qu'ils disaient, mais une des questions qu'ils avaient et où ils ne comprenaient pas, c'est quand ils nous parlaient de la neige, l'hiver en général, mais la neige, ils disaient mais vous aimez ça, vous? Un truc super froid, ça ne fait pas du tout envie, vous arrivez à vous doucher l'hiver, parce qu'ils ont juste la température de l'eau qui vient depuis dehors, donc eux, ils disent s'il fait zéro, ils prennent des douches glacées tout l'hiver, ça doit être terrible, quoi. Et moi, je me disais, mais comment leur transmettre que c'est super la neige? Enfin, oui, c'est froid si on a les mains gelées dans la neige, la débattue et tout. Je me suis dit, je ne vais peut-être pas leur parler de ça. Mais comment leur transmettre que c'est super sans leur cacher que c'est froid, sans leur cacher qu'on doit mettre des gants, des doudounes, ils nous prêtaient pour des cosmonautes, tu vois. Et vous devez vous habiller spécialement pour sortir, sinon vous gelez, vos doigts de pied, est-ce qu'ils gèlent? Alors, pas tous les cousins étaient comme ça. Il y en a qui ont voyagé, d'autres qui sont même venus en Europe. Mais ceux qui n'avaient jamais vu de la neige, j'étais incapable de leur expliquer la réalité que c'était. En fait, venez, venez vivre ce que c'est et vous comprendrez. Je ne vais pas essayer de vous expliquer. Pourtant, il y en a qui étaient un peu plus joueurs et qui disent, non, mais ça doit être génial. J'ai vu des vidéos, le ski et tout, vous glissez dessus et tout. D'autres cousins bien ouverts à qui j'ai pu expliquer, on se marrait et on disait, ouais, quand tu viendras en Suisse, on t'amènera au ski, t'inquiète pas. Des gens ouverts qui comprenaient comment c'était génial sans comprendre tout ce que c'était, mais qui se disaient, ah, oh, ça doit être génial, je veux venir. Et d'autres qui disaient, bah, arrête de voir de me parler de la neige, ça me glace le sang, rien que d'y penser, je vais sortir au soleil 2 minutes, me réchauffer. Et c'est vrai que j'arrivais pas toujours à comprendre lesquels étaient prêts à entendre ce que je voulais leur transmettre et lesquels étaient bloqués. Il valait mieux pas leur parler de la neige, tu vois, ils s'en foutent, peut-être ils en verront jamais, autant que le Suisse froid vienne pas leur amener de la fraîcheur dans leur beau pays. Je me disais, vaut mieux pas leur faire de mal à eux. Et peut-être bien que c'est ça que Jésus fait avec les paraboles. Il respecte les cœurs qui sont pas prêts. Parce qu'il leur répond. C'est leur cœur insensible qui fait que leurs yeux se ferment. C'est parce qu'ils ne sont pas prêts à entendre cette nouvelle qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne voient pas, qu'ils n'entendent pas. Et Dieu n'est pas un Dieu qui s'impose, il se propose, il nous invite, il s'invite. L'initiative est de lui à 100%. Ce n'est pas grâce à nous qu'on est chrétien, mais il se propose à nous. Il ne s'impose pas. Et les paraboles permettent de déceler quels sont les cœurs endurcis qui ne peuvent pas recevoir, et en même temps nourrir les cœurs qui sont prêts à entendre la bonne nouvelle de la neige. Ah non, c'est pas ça. Les paraboles permettent qu'en un seul discours, Jésus peut épargner ou rejeter ceux qui ne sont pas prêts, et nourrir et faire connaître, se révéler aux cœurs qui sont prêts à l'entendre. Et Dieu n'est pas un Dieu qui s'impose, c'est pas depuis Jésus, dans tout l'Ancien Testament, on voit que Dieu est un Dieu qui se propose, Dieu invite l'homme par les patriarches et ensuite un peuple, il invite un peuple à sa suite. Et l'Ancien Testament est une suite d'aller-retour du peuple d'Israël qui se rebelle, puis qui revient à Dieu, et qui se rebelle et qui revient à Dieu. Et on voit dans la Bible une progression de cette révélation. Dieu se fait de plus en plus proche. Là, dans notre texte, Jésus, Dieu s'est fait chair pour se faire encore plus proche de l'homme. Mais le Seigneur frappe à la porte et désire être reçu par nos cœurs. Depuis le tout début, dans le jardin d'Éden, déjà, il ne s'est même pas imposé. Il y avait déjà là la possibilité pour l'homme de dire, je veux faire tout seul, je veux faire sans toi. Connaissance du bien et du mal, c'est pour moi, c'est moi qui veux me mettre à la place de Dieu, j'ai pas besoin de toi. Dès le début, il laisse le choix à l'homme. Et Abraham est celui qui répond de l'autre manière à ce choix-là, à dire, je veux te suivre. Je ne comprends pas tout, mais je veux te suivre. C'est Dieu qui se révèle, l'initiative vient de lui et lui seul. Mais la réponse, c'est bien à nous de la donner. Et l'Apocalypse nous en donne aussi une belle image quand le Seigneur dit, voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et il mangera avec moi. Moi, je suis vainqueur, on l'a chanté ce matin. Le Dieu de victoire frappe à notre porte. Je suis vainqueur et je suis allé m'asseoir avec mon père sur son siège royal. Alors les vainqueurs, je les ferai asseoir aussi sur mon siège royal. Le Seigneur frappe, il désire être reçu, il désire nous faire participer à sa victoire, mais il défoncera aucune de nos portes. et il n'a jamais forcé personne. Il ne s'est jamais imposé, même à son peuple qui s'était choisi. Il a toujours laissé la possibilité que ce peuple se rebelle. Le peuple a toujours, ou successivement, choisi de se rebeller, de le rejeter. Alors on l'a lu, leurs cœurs insensibles font qu'ils ne comprennent rien à ce qu'ils entendent. Ils ne se convertissent pas et Dieu ne les guérit pas. Et Jésus les compare à la génération du peuple d'Ésaïe, qui de la même manière avait décidé de rejeter Dieu, avait le cœur insensible qui faisait qu'ils ont décidé de faire sans Dieu, de ne pas laisser son royaume agir au milieu d'eux. De la même manière, Jésus explique à ses disciples, il ne faut pas forcément imaginer là uniquement les 12 apôtres, mais les disciples, ceux qui ont choisi de suivre Jésus, il leur explique, cette foule-là, il n'y a pas tout le monde qui est prêt à accueillir le royaume. Alors je leur parle en parabole, pour qu'ils puissent être nourris, pour qu'ils puissent cheminer un bout avec cette nouvelle éblouissante que j'ai à leur annoncer. C'est là cette lumière du lever de soleil. Alors, comme pour la neige, moi je suis encore un peu un enfant. Le matin, impossible de me mettre trop de lumière dans les yeux, sinon c'est absolument insupportable. Mais n'importe qui, au milieu de la nuit, quand nos yeux ne sont pas prêts, on n'est pas prêt à avoir de la lumière à ce moment-là, si on venait nous braquer un énorme spot dans les yeux, même les très matinaux qui, dès qu'il y a le réveil, paf, lumière, boum, tout le monde est levé, bon, ça je ne comprends pas, mais rassurez-moi, à 2h du matin, si on vous met un spot dans les yeux, personne ne se dira « Mais quelle lumière bénissante, incroyable, je sens que je peux me réveiller. » Non, le soleil se lève petit à petit, moi j'adore me réveiller, et tu sens qu'en fait ça fait 30 minutes que la lumière elle vient gentiment dans ta chambre, et que tu as encore 30 minutes où la lumière peut venir croissante, et ensuite tu te réveilles et tes yeux se sont fait préparer à ton réveil. Bon, comme la neige, il me reste quelques traits de l'adolescence, vous le voyez, j'espère que ça ne me quittera jamais. Mais une lumière croissante pour des yeux, pour qu'on soit prêt à se lever, prêt à rentrer dans ce que cette lumière nous appelle et à avancer dans notre journée, c'est comparable avec ce Dieu qui respecte, ce Dieu qui se propose, ce Dieu qui s'est révélé tout le long de l'histoire de l'humanité, petit à petit, qui s'est fait connaître. Et qui ne vient pas comme un spot au milieu de la nuit nous dire « Regarde cette belle nouvelle, t'es absolument pas prêt, mais je te montre la puissance de ma lumière. » C'est même plus éblouissant, c'est aveuglant, une lumière trop forte. Voire même une lumière fatale pour nos yeux. Et Dieu semble conscient que cette nouvelle, son royaume, il doit le faire avancer au gré des cœurs. Il doit le faire le révéler au niveau de ce que les gens sont prêts à encaisser, à entendre. Et moi, j'y vois pas simplement un Dieu stratégique qui se dit « c'est mieux pour leurs yeux, c'est mieux pour mon royaume, ça avancera mieux », mais j'y vois un Dieu avec tellement d'amour, j'ai mis le mot respect, mais de l'amour, de se dire « mais ma lumière, elle est tellement importante pour eux, mais pourtant, je vais quand même pas tout faire péter. Pourtant, je vais quand même la mettre au niveau de ce qu'ils sont prêts, eux, à entendre. Cette foule qui n'a pas le cœur prêt, je leur annonce quand même quelque chose. Et eux peuvent préparer le terrain. Moi, je sème. » Alors Dieu respecte, Dieu aime même ceux qui ne sont pas prêts à le recevoir. Et alors, comment se révèle-t-il à ceux qui ont le cœur prêt, ceux qui ont le terrain propice à faire pousser la graine du royaume des cieux, les cœurs qui cherchent le Seigneur? Dans la progression de l'annonce du royaume de Dieu, la Bible nous montre que son royaume avance avec ceux qui sont prêts à l'écouter, ceux qui sont prêts à l'accepter. Et avec Jésus, à partir du Nouveau Testament, Dieu est appelé Père. On voit cette progression, on voit ce Dieu qui se rapproche de nous. Et on l'a chanté, on a été encouragé, ça nous a été rappelé ce matin que la relation qu'il nous propose aujourd'hui, on est à un stade incroyable. On a accès à Dieu par le sacrifice de Jésus. On a un accès tellement proche à ce Dieu qui s'est révélé dans la Bible. Alors on n'est pas encore dans son royaume, sa gloire éternelle et parfaite, mais on est déjà dans son royaume, par l'accès qu'on a avec lui. On est déjà, il a déjà établi son règne par sa victoire sur la mort. On a déjà la possibilité de participer au royaume en acceptant que son sacrifice pardonne mes péchés. Depuis Jésus, le royaume des cieux n'est plus uniquement à conjuguer au futur, plus uniquement à attendre et à dire « pauvre de moi, dans le futur, ce sera mieux ». Oui, c'est bon de se rappeler que dans le futur, ce sera encore mieux. C'est absolument la base de notre foi. Nous sommes porteurs d'une espérance que un jour, tout sera parfait et glorieux pour l'éternité. Mais dès aujourd'hui, déjà, son royaume est établi. Déjà, nous pouvons vivre une partie de son royaume parce qu'il a payé le prix, parce que Dieu s'est fait chair et a payé pour moi. Un Dieu qui ne fait pas que nous respecter et aimer ceux qui ne sont pas prêts à l'accepter, mais un Dieu qui se révèle aussi de plus en plus et qui veut se faire de plus en plus proche à ceux qui veulent bien l'accepter, au cœur prêt à accueillir sa bonne nouvelle du royaume. Un Dieu qui se révèle à nous. Et un commentateur que j'ai lu pour préparer cette prédication, Georges Ladd, dit « Le royaume qui doit venir finalement avec la puissance apocalyptique, le royaume pas encore là, celui que nous attendons, est déjà entré dans le monde, sous une forme cachée, afin de travailler secrètement dans les cœurs des hommes et parmi eux. » Et on découvre là l'ambivalence du royaume pas encore établi, mais déjà établi. Et nous sommes porteurs d'une espérance qui va dans ces deux sens. Une espérance qu'un jour tout sera rétabli et une espérance aussi que dès aujourd'hui, si j'accepte Jésus, Dieu vient habiter ma vie. Alors cette réponse que Jésus donne aux disciples, pourquoi tu parles en parabole? Pourquoi tu parles de cette manière indirecte? Jésus leur montre que ça lui permet de ne pas s'imposer, de ne pas violenter les cœurs, les terrains qui ne sont pas prêts à accueillir les graines magnifiques qu'il a à planter. Et aussi que le royaume des cieux est proche, tellement proche que la réalité du royaume, depuis Jésus, nous pouvons déjà la vivre d'une manière absolument incroyable. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus répond aux disciples, si je reviens au texte, ce que Jésus rappelle aux disciples. Mais vous, vous êtes heureux. Vos yeux ont vu, vos oreilles entendent, vos cœurs comprennent. Et il dit même, beaucoup de gens fidèles avant vous auraient voulu bénéficier de ce que vous voyez. Dieu fait chair, la parole révélée. Jésus proclame à ses disciples qu'ils sont privilégiés de voir le royaume s'accomplir dans un moment si clé, dans un moment incroyable dans cette progression du royaume de Dieu. Cette génération de fidèles, de cœurs prêts, a pu bénéficier d'un accès à Dieu assez incroyable, singulier. Dieu fait chair, on pouvait lui poser des questions. Après, vu ses réponses, ils n'avaient pas non plus la tâche la plus facile, Mais alors, est-ce que depuis Jésus, la révélation atteint son paroxysme et puis on a une révélation décroissante maintenant? On connaît de moins en moins Dieu. Jusqu'à Jésus, c'était le maximum. Et puis une fois qu'on avait Jésus, après sa mort, on n'a plus que l'attente jusqu'à la gloire éternelle. Cette génération était la plus bénie de toutes. Ah, peut-être bien, mais est-ce que cette révélation s'arrête depuis Jésus? C'est pas vraiment ce que la Bible nous enseigne, et Jésus le dit à ses disciples avant de partir, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. » Dans le même sens de ce qu'on voit depuis ce matin, Jésus s'aligne avec ce que nous sommes capables de porter. Mais il promet « Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. » Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dans peu de temps, vous me verrez plus, puis encore un peu de temps et vous me reverrez. Jésus annonce là la suite du programme de la révélation. Oui, il y a un moment où vous me verrez plus Et puis il y a un moment où vous me reverrez, je vous promets, je reviendrai, tout rétablir. Mais dans ce laps de temps, qu'est-ce qu'il promet? Il nous promet l'esprit de vérité qui nous conduira dans la vérité tout entière. Il promet même ça juste après avoir dit que lui-même, il n'a pas pu tout expliquer. Alors il précise bien que le Saint-Esprit puise au même endroit que lui. Et dans les versets que j'ai épargnés pour ne pas avoir 50 slides, on comprend que l'Esprit, comme Jésus, puise du Père, qu'ils sont à la même source, et que l'Esprit, son seul but, c'est de glorifier Jésus. Il n'y a donc jamais incohérence entre ce que Jésus a dit, ce que la parole nous dit, et ce que l'Esprit vient nous révéler. C'est absolument pas ce que Jésus est en train de dire. Il dit pas que son ministère est incomplet et que l'Esprit peut venir modifier ce qu'il a dit. Mais il dit qu'il nous laisse pas seuls. Il dit que cette progression ne s'arrête pas après lui, mais qu'il nous donne, il nous enverra l'Esprit de vérité qui continuera à le glorifier, qui nous rendra sa parole, qui nous rendra son écriture claire, convaincante, applicable et vraie. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de continuer à nous annoncer ce royaume, c'est de continuer le ministère de révélation de Jésus en venant habiter en chacun des cœurs prêts pour nous enseigner l'Écriture, pour nous enseigner la même vérité que Jésus est venu accomplir. Alors oui, les disciples étaient heureux d'être dans ce moment de l'histoire où Dieu s'est fait chair, mais nous sommes heureux. Nous sommes bénis parce que l'Esprit est en nous. Il veut venir habiter en nous. Et tout comme nous avons lu tout à l'heure, le Seigneur victorieux frappe à notre porte, attend que nous l'acceptions. L'Esprit frappe à la porte de chacun. L'Esprit attend que nous voulions bien faire le pas de foi de l'accueillir. Nous sommes porteurs d'une espérance. On chemine bientôt depuis 9 mois, un peu plus même, avec ce thème porteur d'une espérance. L'espérance du royaume des cieux. Alors cette réponse de Jésus, pourquoi il annonce le royaume avec des paraboles, nous apprend que cette espérance, elle n'est pas seulement pour le futur. Il n'y a pas seulement une pertinence pour demain. Il y a une pertinence pour déjà aujourd'hui. Jésus est venu accomplir son règne. Et cette espérance, c'est même pas seulement un discours ou une philosophie que nous savons cérébralement ou nous avons accueilli dans notre cœur. C'est pas uniquement un discours, oui. Mais c'est Dieu lui-même que nous portons en nous. C'est Dieu lui-même qui veut venir habiter en nous. Et c'est le Saint-Esprit lui-même en nous qui fait ce travail de révélation, qui nous révèle les Écritures, qui nous permet de nous rendre clair et applicable ce que Dieu nous a enseigné dans sa parole. C'est Dieu lui-même qui s'est révélé jusqu'à se faire chair, puis envoyer son Esprit pour habiter en nous, se faire de plus en plus proche de nous. Comment voulez-vous être plus proche de nous qu'un Dieu qui dit « je veux venir habiter, je veux venir vivre en toi, je veux que tu chemines avec moi tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes de ta vie. » Paul enseigne aux Corinthiens un texte bien connu quand il dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Cet esprit est en vous et Dieu vous l'a donné, vous ne vous appartenez pas à vous-même. » Il enseigne ça aux Corinthiens pour dire « Arrêtez de faire n'importe quoi à vos corps, avec vos corps, parce que le Saint-Esprit habite en vous. » Et Dieu sait comment Paul avait le souci du témoignage et de dire si les croyants font n'importe quoi de leur corps et se plaisent dans le péché, alors qu'est-ce que ça veut dire de la foi que nous avons en Jésus-Christ, que Dieu habite en eux? C'est absolument incohérent. Paul leur rappelle donc, avec ce symbole du temple, vous êtes l'accès à Dieu pour les gens autour de vous. Le temple était là où on venait dans la présence de Dieu. Si notre corps, si notre vie est le temple de Dieu, alors oui, nous sommes l'accès pour les gens autour de nous à Dieu. Par notre foi, par nos actions, par notre vie, nous sommes porteurs d'une espérance, l'espérance du Dieu vivant qui vient habiter en moi dès aujourd'hui, déjà maintenant, parce qu'il a établi son règne il y a 2000 ans en mourant sur une croix. Et en plus, ce Dieu-là vient m'accompagner quand je vis le pas encore, quand je vis que ce n'est pas encore parfait, que ce n'est pas encore glorieux, quand je vis le deuil, quand je vis la séparation, quand je vis la souffrance, quand je vis le chômage, quand je vis la tristesse, quand je vis l'échec. Oui, ce Dieu-là n'est pas un Dieu de théorie de dire « ça va être mieux plus tard, je te laisse tout seul en attendant ». Ce Dieu-là vient déjà habiter tes réalités, mes réalités, dès aujourd'hui. Nous avons une espérance pour le futur, mais nous avons aussi l'espérance absolument conciliée avec deux choses qui vont tellement bien ensemble, d'un Dieu qui nous accompagne, ici-bas, avec tout ce qui n'est pas parfait ni glorieux. Nous sommes de simples vases d'argile dans un monde imparfait, et Dieu frappe à notre porte. Dieu nous propose d'y déposer un trésor, le trésor de son royaume en nous. Alors ce Dieu qui propose ce trésor à l'humanité depuis tout l'Ancien Testament, puis par Jésus qui même lui fait chair, ne le fait pas de manière directe, brutale et irrespectueuse, même lui le propose de sorte à ce que les gens puissent cheminer avec lui. Ce Dieu qui annonce le royaume en parabole pour laisser chacun cheminer, qui se propose à chacun de nous, qui s'est révélé, si je l'accepte, il vient manger chez moi, il vient vivre en moi, et il compte sur moi pour être un relais de sa lumière, un relais de son royaume, et participer à son avancement. Alors je nous laisserai avec trois petites réflexions qui peuvent aussi nous conduire dans ce temps de scène. Suis-je conscient que je suis un accès à Dieu et à son royaume pour tous ceux que je côtoie? Comment mes yeux et mes oreilles sont tournés vers ce que Dieu veut me transmettre? Puisqu'il m'est promis que si mon cœur désire Dieu, alors Dieu me donnera en abondance. Et comment je vis cette réalité d'être porteur du royaume, porteur de cette espérance autour de moi. Et je vais finir par la prière. Seigneur, merci. Merci d'être un Dieu qui se révèle à la hauteur de ce que nous sommes capables d'accepter, d'encaisser, qui se révèle et qui, s'il trouve des cœurs prêts à l'accueillir, alors il donne toujours plus, il donne en abondance. Merci parce que tu es ce Dieu qui cherche à nous rejoindre chacun, qui cherche à grandir en nous et qui veut se révéler petit à petit au gré de ce que nous pouvons accueillir de toi. Merci pour ton esprit que tu envoies sur nous, que tu envoies en nous et qui nous permet de voir avec nos yeux, qui nous permet d'entendre avec nos oreilles ce que toi tu veux, ce qui est sur ton cœur. Mais merci de faire de chacun de nous ta maison. Viens habiter en nous et viens nous montrer qu'est-ce que toi tu veux qu'on soit comme temple, comment toi tu veux qu'on agisse en tant que porteur de ton royaume. Amen.